Là, si j'utilise mon drone, moi, j'aurais l'impression de faire du... C'est comme du voyeurisme, quoi.
Là, il y a une troisième explosion. Et après, ben, on a continué à enregistrer. Et donc, on voit qu'on est un petit peu en panique.
Bonjour, je m'appelle Yves Pulici et les journalistes que vous venez d'entendre, ce sont Clémence Dibou et David Bouteiller. Ils filment les bombes en Ukraine et leurs victimes. Que peut-on montrer? Pourquoi? Et dans quelles conditions? Bienvenue au service reportage de BFM TV. Salut Clémence, salut David.
Salut.
Salut.
Où êtes-vous en ce moment?
Alors, on est dans un marché couvert à Dnipro parce qu'à Dnipro, la vie continue à peu près normalement. Donc, il n'y a pas tout partout dans tous les rayons, mais là, on a pu manger un petit truc et prendre un café. Et on est à la table avec Andri, notre fixeur.
Bonjour, bonjour.
Il est en train d'améliorer son français.
Et Dnipro, c'est au centre de l'Ukraine.
C'est à peu près au centre de l'Ukraine. Et en fait, et c'est aussi pour ça qu'on est venu là, c'est que c'est devenu un peu la base arrière des trois fronts en cours, Kharkiv, le Donbass et Kherson, la Crimée au sud. Et donc, du coup, il y a pas mal de choses à raconter sur le côté base arrière.
Il y a quelques jours, vous étiez à Kharkiv, vous avez quitté Kharkiv justement pour Dnipro parce que c'était trop dangereux, la ville se faisait bombarder.
Kharkiv est bombardée quotidiennement, plusieurs fois par jour, partout. Le centre-ville n'est pas épargné. Et donc le dernier jour, en fait, on est allé faire un duplex en centre-ville. Il y a un premier policier, on descend de la voiture, on avait la caméra allumée. Le premier policier nous dit qu'il faut partir tout de suite parce qu'il y a un risque de bombardement. On s'éloigne, effectivement, on entend un bruit, on voit de la fumée. On va pour filmer cette fumée, voir ce qui se passe. On croise une roquette au sol qui n'a pas explosé juste à côté de la voiture. Et là, on croise d'autres policiers qui nous disent qu'il faut partir tout de suite maintenant. On fait 50-100 mètres. Et là, il y a une troisième explosion et qu'on a vécu en direct parce qu'on était en live en fait à la télé. Et après, ben, on a continué à enregistrer. Et donc, on voit qu'on est un petit peu en panique.
Ouais. Il est où notre...
Hein? Merde, il est où?
Bouge, 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 bouge. Attends, calme-toi.
Ce qu'on entend, c'est que Andri, notre fixeur, lui, il a eu le bon réflexe, il est parti de la voiture.
Il a sauté de la voiture, donc c'est le bon réflexe. Ouais.
When I saw in sky, I go jump from the car because it is like a protocol of what must do.
Quand il a entendu le sifflement, bah, il est sorti de la voiture parce que c'est le protocole de sécurité. Et il a raison. Dès qu'on entend un sifflement, il faut sortir de la voiture parce que la voiture, c'est un danger potentiel.
C'est fou, quand on y pense, on est vraiment passé très près.
Et je le redis hein, encore une fois, ce que je disais à l'antenne aussi, la course au sensationnalisme, ça peut être très dangereux. Et l'intérêt d'avoir filmé ça, c'est aussi de montrer de l'intérieur ce que les habitants de Kharkiv peuvent vivre parce que eux, c'est quotidien, constant. Et ça peut aussi montrer leur état d'esprit, l'état d'esprit dans lequel ils sont, de savoir s'il faut qu'ils restent sur place, s'il faut qu'ils partent. Et ce qu'on voulait donner aussi, c'est l'idée pour les téléspectateurs de comprendre ce que ça peut être de l'intérieur, en tant que civil, de vivre des bombardements et de vivre une guerre.
Comment est-ce qu'on fait pour trouver l'équilibre entre être en sécurité et raconter ce que peuvent vivre les Ukrainiens sous les bombes?
J'ai envie de dire, à chaque fois, on reçoit des messages de nos chefs, de la rédaction, qui nous dit... Je sais pas pour balancer, c'est pas ça, mais qui nous disent soyez prudents, soyez prudents. Et en fait, oui, en fait, si on veut vraiment être prudent, on reste à Paris, malheureusement. Donc après, en revanche, c'est toujours un jeu d'équilibre entre quel risque on prend, pour quelle information on va donner. Le risque inutile, effectivement, ça ne sert à rien. Aller chercher une information pertinente parce que c'est dangereux, on est toujours en train de jauger si ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup. Et c'est pour ça que la fatigue est notre pire ennemi, parce qu'on est très vite fatigué sur les terrains de guerre, et que la fatigue peut altérer notre jugement. Et c'est toujours la balance permanente entre est-ce que c'est risqué et quel intérêt pour l'antenne ça peut avoir. Voilà.
Ce que vous racontez, ce n'est pas seulement les bombes qui tombent, mais aussi les victimes des bombardements.
Ouais, la veille, en fait, on était dans le secteur toujours du centre-ville. On était un peu plus à l'est, mais toujours dans le centre-ville. Et on voit de la fumée s'échapper. Et donc, on dit, on va aller voir ce qui se passe. Et effectivement, ça venait de se produire. C'était une énorme explosion cette fois-ci. Il y avait des débris partout. Et moi, il y a deux choses qui m'ont interpellée. D'abord, il y avait quelques journalistes à Kharkiv. Il y a beaucoup moins de journalistes qu'à Kiev. Mais les journalistes faisaient ce qu'ils voulaient au milieu des pompiers, au milieu des secouristes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cordon de sécurité comme on peut avoir à Kiev. Là, c'était vraiment... tout le monde travaillait comme si c'était presque quotidien. Et les blessés qu'on a interviewés nous ont tous dit, mais vous croyez quoi en fait, c'est pas du tout exceptionnel, nous c'est tous les jours qu'on vit ça. Et ça c'est les deux choses qui m'ont marqué, moi, de ce... parce qu'on est arrivé des minutes après, c'était presque un mini événement en fait. C'était, ah bah voilà, c'est tombé sur nous. Il y a eu des morts, hein. il y a eu des drames, il y a eu des pleurs, c'est pas ça. Personne n'a été surpris.
Pourquoi vous avez pris la décision d'aller sur cette explosion, voir les dégâts, les blessés, les morts?
Pour savoir déjà d'une ce qui s'était passé, et de deux, comment le vivaient les habitants. Parce que souvent, quand on arrive sur des lieux d'explosion, c'est un jour après, longtemps après. Et donc c'est une scène de crime figée, on va dire. Qui est tout autant intéressante et qui dit des choses et qu'on peut documenter pour cette guerre. Mais quand on arrive à l'instant T, c'est des gens qui nous racontent, qui sont encore sous le choc, qui viennent de le vivre. Et on a plus l'impression d'être avec eux et de comprendre comment ils vivent les choses.
David, toi tu es JRI, journaliste reporter d'images, donc tu t'occupes notamment de l'image, de filmer. Quand tu arrives sur cette scène de bombardement, qu'est-ce que tu filmes? Comment tu le filmes?
Quand j'arrive sur cette zone, je vois de l'eau, je vois des fils électriques, je vois de l'électricité, c'est extrêmement dangereux. Et je me dis, tout de suite, ah mais si j'avais mon drone, si je pouvais l'utiliser là, je pourrais filmer peut-être sans moi me mettre en danger. Mais on ne peut pas utiliser les drones puisqu'il y a l'armée.
Et est-ce que vous pensez utiliser le drone pour filmer des endroits encore plus compliqués, des lignes de front, des zones de guerre, des endroits où vraiment on ne peut pas y aller?
Ça, c'est toute la question puisque, par exemple, quand on arrive sur les lieux avec le missile, là, si j'utilise mon drone, moi, j'aurais l'impression de faire du voyeurisme, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver avec un drone et faire ça. C'est spécial. Moi, je l'ai utilisé dans un bâtiment qui était dangereux. Je l'ai utilisé pour ça, le drone. Mais si je suis sur la ligne de front et que j'utilise mon drone, je peux très bien être détecté ou je ne sais pas. Ça peut être extrêmement dangereux d'utiliser le drone sur une ligne de front, par exemple. Puisque le drone, moi, je vais le poser à 20 mètres de moi. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut se passer? C'est une technologie qu'il faut utiliser, mais elle peut se retourner contre nous. Il faut vraiment savoir doser l'humain, le technique et la dangerosité de ce nouveau moyen de tournage, finalement.
Autre reportage sensible, il n'est pas encore sorti parce que vous l'avez tourné tout juste ce matin. C'est à Nipro, vous avez filmé dans une morgue. Et là aussi, qu'est-ce qu'on filme? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on montre?
On était à l'hôpital, en fait, pour voir les tests ADN, prélèvement de tests ADN. Sur des morceaux des morceaux de corps, en fait. Quoi. Le directeur de l'hôpital nous expliquait que c'était beaucoup plus compliqué à prélever sur des soldats parce que souvent, ils arrivaient soit déchiquetés, soit brûlés. Enfin, voilà, on est sur des choses pas du tout gaies, pas du tout drôles.
Et les familles, surtout.
Et puis, on a vu
les
des familles
qui venaient pour voir si c'était le corps de leurs proches. Donc, on entendait des pleurs. Et à un moment donné, on a bien compris, on nous a mis dehors, hein, puisque notre caméra dérangeait.
On n'est pas venu en secret, mais au bout d'un moment, en fait, ils se sont dit, ah mince, on va laisser les gens tranquilles. Voilà, c'est des choses très dures. Et encore une fois, comme disait tout à l'heure David, le voyeurisme ici n'a pas sa place. Le but, c'est de montrer aussi tout ce que ça engendre, la guerre. Pour des familles qui perdent leur père, leurs proches, leurs frères, leurs sœurs, parce qu'il y a aussi des femmes soldats, et comment le pays gère ça. Et c'est une logistique très très compliquée.
Justement, est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit ça, on ne pourra pas le montrer parce qu'on a filmé une scène qui ne doit pas être publique?
Les blessés, juste après une explosion, il y a des choses qui ne sont vraiment pas montrables, et en plus ça n'apporte rien au sujet. On peut montrer des gens qui ont du sang à la tête, en fait. Ça montre quelque chose. Quelqu'un d'éventré, ça n'apportera rien.
En fait, moi j'ai été assez surpris puisque il y avait donc l'explosion à Kharkiv. Donc on arrive sur place et là il y a plusieurs blessés et moi j'essaye de les filmer dans un certain angle pour qu'on puisse voir que ce sont des blessés. On voit des jambes par exemple qui sont cassées, on voit des bandages, on voit la tête. Mais certains journalistes, je trouve, moi, vont un peu loin, ils se mettent au-dessus. Moi ça m'a un peu surpris ça. Peut-être qu'ils pouvaient déranger les secours. Moi c'est ce qui me dérangeait, c'était il ne fallait pas que je dérange les secours surtout. Ne pas se mettre entre les secours et le blessé, surtout pas, voilà.
Là ça va être quoi les prochains reportages des prochains jours?
Alors on essaye de voir des évacuations en cours humanitaires depuis Kherson. la seule grande ville pour l'instant complètement prise par les soldats russes. Il y a un convoi humanitaire qui essaye de se mettre en place pour la première fois. La destination finale, ce serait Dnipro. Donc, du coup, ce serait des histoires à raconter. Et puis après, on remontera tranquillement vers Kiev en espérant un reportage positif, une histoire positive.
Bon courage, merci beaucoup. Passez une bonne journée, à plus, salut.
Merci, salut.
Salut.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Service Reportage, un podcast créé pour raconter différemment la guerre en Ukraine. De nouveaux épisodes arrivent, alors abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application BFM. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.